Bienvenue à Futuristique 3.0, le podcast qui va à la rencontre d'humains passionnés d'innovation, de création futuriste et d'invention. Je suis Laurence Esso, consultante agréée en relations publiques. Avec mes invités, nous parlerons de Metaverse, d'intelligence artificielle, de NFT et de bien plus. Nos échanges permettront de démystifier les nouvelles tendances technologiques. Ensemble, nous tenterons de comprendre leur influence sur notre monde et sur la manière dont nous pensons, communiquons et interagissons. Embarquez avec nous pour cette odyssée d'un futur déjà bien proche. Bonjour Alfonso, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors, il faut le dire, on se connaît très bien, on a travaillé ensemble en aéronautique et aujourd'hui tu as plus de 15 ans d'expérience en développement de produits, notamment dans cette industrie, mais aussi dans l'automobile et l'informatique. Tu es l'un des cofondateurs d'Atypic Labs, une start-up qui a pour mission de créer des expériences mémorables, des expériences qui vont faire jaser, comme on dit au Québec. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu plus de toi ou d'Atypic Labs?
Bonjour Laurence. D'abord, je veux te remercier de m'avoir invité à ton podcast. Faire un bonjour à tout le monde qui nous entend. Puis oui, avec plaisir pour te parler un peu plus de moi, d'Atypic Labs. Et en fait, Atypic Labs était né de mon désir de ramener tout le côté technologie dans un facteur plus humain. Et de l'utiliser la technologie pour enrichir les échanges humains et la profondeur dans les expériences. Donc, dans des différentes expériences professionnelles que j'ai eues, même en aéronautique, on avait souvent à travailler avec des gens qui créent des expériences pour nous, pour différents objectifs, marketing et autres. Et c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais je sentais toujours qu'on pouvait faire des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus humaines avec la technologie. Donc, c'est cette idée qui est née à Atypic Labs. Donc, c'est une compagnie qui se spécialise dans la création d'expériences technologiques, mais centrées autour de l'humain et en utilisant la technologie vraiment pour augmenter l'expérience humaine, les connexions entre les gens, les sens de communauté et aussi tout ce qui est symbolique, narratif, pour permettre d'aller plus en profondeur.
Et effectivement, parce qu'en parlant de connexion, tu as par exemple créé Agora, une plateforme évolutive pour des expériences virtuelles et hybrides. Et moi, je trouve qu'Agora se démarque de la plupart des plateformes d'événements que l'on connaît, notamment par son design, son approche ludique, sa fluidité. Pourrais-tu nous dire d'où est venue l'idée d'une telle plateforme? Que cherchez-vous à réaliser, ton équipe et toi?
C'est parti, en fait, à la base, plus un besoin humain. Je pense qu'on a tous vécu ce moment dans lequel on est rentré à un mode pandémie, puis toute la quantité, tout le contenu a continué à fonctionner d'une certaine façon. Il y avait des événements virtuels, entre guillemets, dans lesquels on recevait des diffusions de tout ce qu'on faisait, mais on s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas très satisfaisant. J'ai senti de mon côté que dans les événements en présentiel, c'est quelque chose qu'on prenait par acquis dans l'avant-Covid, mais dans les événements en présentiel, on cherche beaucoup plus que juste le contenu, on cherche une communauté. On va dans des événements qui nous rassemblent, dans lesquels on va chercher une certaine groupe de gens, une certaine tribu, une certaine communauté. Et cette communauté, évidemment, était pas présente dans l'après-concert ou dans l'après-conférence en ligne. Et aussi, l'idée de se rassembler juste comme entre amis, genre comme un party à la maison, dans les Zooms qu'on essayait au début, c'était vraiment très insatisfaisant. On avait des groupes, genre 30 personnes dans le même Zoom, c'était très difficile à gérer. Puis il y a pas 30 personnes. Dans la vie réelle, ça se passe pas ça, genre comme c'est plus des petits groupes de gens qui connectent puis qui bougent de façon fluide. Donc Agora, le premier prototype, c'était vraiment parti pour connecter des amis ou connecter des communautés que j'aimais. Et avant de me rendre compte, c'était devenu comme un projet qui a commencé à voler tout seul parce que c'était un besoin vraiment criant de l'humanité dans cette année. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment pris son élan un peu tout seul.
t'as pris un très bel élan parce que aujourd'hui la plateforme est très en demande, beaucoup plus dans les milieux VIP par exemple ou artistiques et différentes institutions de prestige. Ce qui me paraît quand même tout naturel vu ta proximité avec ce milieu. Mais en même temps, est-ce que c'est principalement cette industrie que tu ciblais? Est-ce que Agora serait la plateforme pour des événements plus glamour? Est-ce que c'est comme ça que tu vois Agora?
Je pense que le besoin principal, c'est les gens qui ont besoin d'avoir des connexions importantes et profondes en ligne. Bah, c'est nos premiers clients, puis jusqu'à aujourd'hui, on a des clients, beaucoup de ce type-là. C'était, par exemple, le type des clients des organisations d'entrepreneurs de haut calibre, dans lesquels, bah, une fois par année, ils partent ensemble tous pour aller faire du ski une semaine quelque part. Puis c'est ça leur activité annuelle. Mais cette année, l'activité annuelle, bah, ça pouvait pas se passer au présentiel. Puis les gens font ça, aller faire du ski, aller sauter en parachute ou ce que vous voulez, dans un objet, oui, de faire l'activité, mais surtout de se rassembler puis de connecter avec une activité. Donc on a commencé à créer des expériences avec ce type d'organisation dans Agora. Ce qui était très intéressant d'ailleurs parce que c'est des gens qui sont vraiment passionnés, intéressants, puis qui ont une drive pour découvrir. Donc c'était stimulant comme projet et aussi ça nous donnait une liberté plus grande de budget parce qu'on pouvait organiser des choses, par exemple un souper à quatre services dans lesquels, je sais pas, normalement dans le présentiel, eux y allaient à faire une tournée des restaurants. Par exemple à Calgary, en Alberta. Puis là, du coup, bah, tu sais, comme on a refait cette expérience en virtuel, mais avec les soupers vraiment servis à la maison. Des dynamiques comme ça, c'est des choses qu'on pouvait créer avec cette clientèle un peu plus VIP. Mais c'est pas juste, ça doit pas être forcément à ce niveau des VIP. Quand on était en aéronautique, c'était quand même un milieu dans lequel on avait besoin de prendre beaucoup l'avion pour aller faire des connexions spontanées avec les gens. Et tous ces types de milieux ont vraiment besoin de ce type de travail. Donc, c'est ça les types de créneaux dans lesquels on a eu plus de succès.
Puis on le voit tout à fait que ça change complètement le type de connexion qu'on peut avoir au travers du virtuel. Et d'ailleurs, au sein d'Atypique Labs, vous n'avez pas seulement Agora, vous développez toutes sortes de projets et on ressent cette volonté de faire les choses différemment, surtout en ce qui concerne les expériences sociales. Il y a comme ce désir de créer des connexions plus humaines au travers de la technologie. Et je vais citer Steve Jobs, par exemple, qui disait: l'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous allume?
Je pense qu'en général, c'est l'humain, le côté, la profondeur de l'expérience humaine. Puis je pense que c'est pas quelque chose dont on a toujours besoin de la technologie. Évidemment, moi, ayant un parcours technologique, je vois plein de possibilités pour utiliser la technologie pour augmenter les expériences, mais certaines des choses qu'on a fait, par exemple, on a fait une pièce de théâtre interactive en ligne. Le premier prototype était 100% présentiel avec zéro technologie, avec c'était plus comme une chasse au trésor mélangée avec du théâtre, avec des comédiens. J'aime beaucoup le côté symbolique, vraiment aller dans la profondeur, dans les transformatifs, créer des expériences qui transforment. Et tout ça, quand on utilise la technologie, mon objectif, c'est que les gens soient tellement plongés dans l'expérience, dans la connexion humaine, dans la narrative, qu'ils oublient la technologie. Donc la technologie devient juste comme une couche de magie qui se rajoute pour immerser les gens. Au contraire de ce qu'on voit souvent dans les expériences technologiques, la technologie devient au centre, devient distrayante. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un petit peu le côté gadget, mais quand on enlève ce côté, le côté gadget, l'expérience devient comme peu intéressante. Donc ici, l'important, c'est que l'expérience, la connexion, le symbolisme restent au centre. Puis c'est aussi un peu pour ça qu'on a créé Agora, parce qu'on manquait des moyens pour créer ce type d'expérience qu'on faisait au présentiel, avec du mouvement, avec du son, avec du toucher, dans le virtuel. Donc on a créé une plateforme qui nous permet de créer ce type d'interaction plus profonde.
C'est une création qui a également beaucoup de support de par l'écosystème très dynamique des startups, surtout ici à Montréal. Moi, j'ai envie de parler justement de cet univers de startups. Montréal est davantage reconnu comme un pôle mondial en termes des nouvelles technologies et plus précisément l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, une cartographie de Bonjour Startup Montréal nous révèle un écosystème en IA qui est très très dynamique ici, avec entre autres 10 accélérateurs, une vingtaine de laboratoires corporatifs et d'importantes sources de financement. Alors, c'est le cas de le dire, c'est beaucoup d'amour que des innovateurs tels que toi recevaient de la part de la ville. Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de ton parcours dans cet univers, les défis, les obstacles, et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans ce milieu à Montréal?
C'est une question très intéressante. Le parcours d'entrepreneur, c'est pas facile, puis on nous dit ça, puis ça s'écoute cliché un peu, mais ça prend beaucoup d'énergie. C'est très demandant au niveau des quantités d'heures, puis faut faire un peu de tout. Donc, je pense que le plus important, c'est que le projet t'allume profondément, parce que tu peux pas trouver cette quantité d'énergie dans un projet qui fait du sens au niveau des affaires, qui a une très belle portée au niveau des chiffres d'affaires, etc., mais qui t'allume pas. C'est juste pas humainement viable de créer cette quantité d'énergie. Tandis que quand on est en train de faire un projet que t'aurais fait pour le plaisir, genre, parce que c'est quelque chose qui t'allume, et tu restes, tu fais des longues nuits, tu dors pas beaucoup, ben, il y a une quantité d'énergie disponible qui est très très différente, puis il y a une possibilité de vraiment pousser ça beaucoup plus loin. Donc pour moi, c'est vraiment important de toucher au plaisir, toucher à ce qui est, à ce qui t'allume, à ce qui te fait vraiment, comme pas dormir la nuit. Puis un exemple qui me vient à l'esprit, un des concepts des aventures ludifiées qu'on a fait pour certains dépôts des musées, qu'on a incubé dans certains incubateurs de technologie, c'est venu d'une idée qui m'est venue une nuit, j'ai passé quelques jours à faire des esquisses, puis je me sentais comme coupable parce que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment du travail, du vrai travail. Puis après, j'ai compris comme 2 semaines plus tard que c'était... J'avais déjà tout le matériel pour un appel à projet, pour une expérience en forêt. Vraiment apprendre à trouver cette feu à intérieur, puis le projeter vers quelque chose qui peut être viable à l'extérieur, je pense que ça, c'est clé. Au niveau de... Ben, on est chanceux à Montréal, comme tu disais, d'avoir tout un écosystème et beaucoup de support, parce que je pense que la passion par soi-même, ça suffirait pas. Il y a beaucoup de choses à faire, puis surtout quand on était... employé, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas à gérer, qu'on doit gérer. Donc, il y a beaucoup de support, de coaching, des organismes qui peuvent donner du support, du conseil, d'accélérer des projets, incuber des projets. Donc, je n'irai pas dans une liste extensive, mais nous, on a eu beaucoup de support de la part des Zoo, de Yes Montréal, etc. Donc, il y a beaucoup de ressources selon le type de projet. Puis oui, tout type de technologie. Dans notre cas, dans tout ce qui touche à la créativité numérique, il y a, c'est comme un mélange de plusieurs disciplines. C'est pas toujours facile, dans le sens que c'est difficile pour les organismes plus classiques de comprendre ce qu'on fait, puis on a du mal à cocher toutes les cases. Puis d'ailleurs, au Forum Numix, que c'est le rassemblement des industries de la créativité numérique, qui s'est tenu d'ailleurs chez Agora, une des conclusions qui est venue souvent des plus gros joueurs et des plus petits joueurs et de toutes sortes de joueurs, c'est que oui, on avait beaucoup de demandes d'innover, pour par exemple pour la COVID, de tous ces organismes, mais fallait innover tant qu'on rentre dans les boîtes classiques. Donc c'est un peu comme contre-intuitif, parce que oui, ce que vous faites, c'est exactement pourquoi on a créé cette bourse, mais ça rentre pas dans la case 32 et 33 de la demande, donc on peut pas vous accepter. Donc il y a une volonté de tous ces organismes de se moderniser, puis de s'ouvrir, mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Puis je pense que pas mal tous les organismes les reconnaissent, puis c'est un consensus de notre industrie dans la créativité numérique. Alors, il y a beaucoup d'industries qui sont beaucoup plus ont beaucoup plus de supports directs, comme par exemple ce que tu viens de dire, l'intelligence artificielle. Ce type de projet, c'est sûr que ça, c'est comme vraiment un niche à eux, puis c'est une autre game.
Oui, tout à fait. Et puis on le sait, hein, que les nouvelles technologies, ça va vraiment vite. Et d'ailleurs, le rapport 2019 de Mary Meeker de la Silicon Valley le soulignait. Donc il s'agit d'un rapport annuel sur les nouvelles tendances du numérique et les nouvelles technologies considéré comme l'un des plus influents et très attendu par les passionnés et les investisseurs de ces industries. Alors, cette publication nous confirme que les innovations en technologie avancent vraiment à une vitesse tellement folle que l'humain a du mal à rattraper le rythme. Ce qui nous amène à nous dire, c'est bien beau l'innovation, la technologie, mais quelle est finalement notre place dans tout ça? Et comment est-ce qu'on s'assure de rattraper le train en marche? Qu'est-ce que toi, tu dirais, par exemple, à ceux qui commencent à se sentir essoufflés?
Mais ça peut être étourdissant, puis malheureusement, beaucoup de technologies qui sont développées plus avec une idée de profit que de progrès humain. Donc souvent, on finit en tant qu'individu à être instrumentalisé par la technologie ou pris un peu en otage plus que mis dans le potentiel maximum. Je pense que pour les individus, ça rend vraiment une idée de faire des choix conscients puis faire contact avec avec leur corps, avec comment ils se sentent et comment ces technologies font sentir. Par exemple, si quelqu'un commence à se sentir angoissé avec son téléphone, voir pourquoi, puis il y a peut-être trop de notifications qui sont ouvertes, puis aller faire des choix conscients au niveau de, OK, c'est quoi les notifications dont j'ai vraiment besoin? Est-ce que je dois gérer mes amis pour dire comme, écoutez, si vous voulez des réponses rapides, écrivez-moi ici. Si vous voulez des réponses plus lentes, écrivez-moi ou partagez des trucs pour les phones ou des ressources. Envoyez-moi ça plutôt ailleurs. Genre, il y a toute une réflexion à faire, même si vous pensez au Facebook, on peut prendre, tout ce que Facebook nous lance, un peu comme du junk food, où on peut vraiment prendre le soin de faire une curation, un filtre de ce que la technologie est en train de nous donner. C'est pas toujours facile, puis les systèmes sont pas toujours faits justement pour nous permettre de faire ça. Mais je pense que c'est important de au moins avoir en tête de faire des choix conscients par rapport à ce que on reçoit de la technologie, puis que ça reste aligné avec notre humanité.
Oui, alors en quelque sorte, tu nous apprends à faire la part des choses. Sachant que tu baignes donc dans cet univers, l'innovation, les nouvelles technologies, etc., est-ce que tu peux nous parler de quelques innovations qui t'ont vraiment marqué récemment et comment penses-tu qu'elles vont changer notre monde?
Moi, je tripe sur beaucoup de choses, donc c'est un peu difficile à faire des choix, mais... Je pense que j'aime pas beaucoup tout ce qui est réalité augmentée, souvent parce que ça met un écran devant toi. Mais je pense que quand on arrive à voir des lunettes de réalité augmentée performantes, accessibles, ça va être vraiment intéressant. Qu'on commence à voir ce qu'on appelle la réalité mixte, qui consiste à voir la réalité réelle avec nos yeux et voir une couche des réalités augmentées par-dessus. Donc ça peut être super intéressant pour créer des histoires, pour faciliter certaines tâches. On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Quelque chose qui m'a fait personnellement triper beaucoup, c'était les véhicules personnels électriques, genre comme il y a plein qui sont très gadgets, mais j'avais un skateboard, une planche à roulettes électrique des premières prototypes qui sont sortis à l'époque. Et puis je trouve ça encore incroyable qu'on puisse aller à telle vitesse dans un véhicule si petit, monter des côtes à 40 km/h, c'est vraiment incroyable. Et puis je pense que il y a une possibilité de changer la façon comme on fait la mobilité dans les villes. Donc il y a encore des questions à régler au niveau de la régulation, puis certains aspects, mais je pense que ça peut être aussi très intéressant pour le futur. Et puis comme ça, je peux continuer pendant longtemps, Laurence. Donc, il faut que tu m'arrêtes à un moment donné.
Oui, j'en suis certain. Et c'est vraiment très passionnant de t'entendre parler de technologie. C'est vraiment rafraîchissant aussi ton approche. Et comme on le sait aussi, ta plateforme connaît un certain succès auprès d'un marché spécifique. Alors moi, je serais intéressée de savoir si tu aurais un commentaire de l'un de tes clients qui révèle l'impact de ta plateforme, en fait, sur l'événementiel. Quelque chose qui t'a confirmé que tu étais dans la bonne direction avec Agora.
Quelque chose qui revient très souvent, puis que moi, ça me fait vraiment plaisir. Genre, quand les gens me disent ça, je me sens vraiment bien de sentir que ça répond à notre mission. Souvent, je peux te dire, peut-être au moins la moitié des événements qu'on fait, il y a quelqu'un qui m'appelle quand on fait le debrief, puis il me dit que les gens ont vraiment trippé, que les gens envoyaient plein de messages pour dire que c'était la meilleure expérience qu'ils ont fait en ligne. Mais surtout, les gens disent beaucoup, après faire des expériences chez Agora, qu'ils se sentent très énergisés, genre qu'ils se sentent électriques quand après l'expérience. Même si, des fois, c'est, genre, les gens restent des fois après la conférence dans le côté plus réseautage pendant des heures, genre 2-3 heures, puis souvent c'est au-delà l'heure de fermeture officielle de l'événement, puis les gens viennent me voir comme, hey, est-ce qu'on peut rester un peu plus, genre comme, puis ça c'est complètement le contraste opposé par rapport à ce qui se passe dans les événements en ces moments, genre, puis la fameuse fatigue Zoom dans lesquelles, genre, les gens se sentent vraiment épuisés avec l'écran. Je pense que oui, en effet, l'écran, ça sera jamais comme le présentiel, puis ça se veut pas être comme le présentiel, mais je pense que plus que l'écran, puis souvent les gens pensent que c'est la fatigue des yeux, etc. Je pense que la fatigue Zoom, c'est la même fatigue que vous avez quand vous êtes dans un meeting au présentiel avec 7-8 personnes dans lesquelles vous n'avez pas vraiment de quelque chose à apporter dans le meeting et vous vous sentez comme prise en otage pendant une heure de temps. Vous pouvez pas partir de la salle, vous pouvez rien faire d'autre, vous n'avez pas vraiment de quelque chose à faire. Puis je pense que c'est je sais pas, après ce type de meeting au présentiel, on sort épuisé, genre, comme on sort vraiment fatigué, puis je pense que c'est la même fatigue que la fatigue Zoom. C'est une manque de agence, une manque de liberté de mouvement, une manque de choix. Et je pense que même si nous, chez Agora, c'est quand même la vidéoconférence, c'est pas au niveau de la technologie quelque chose qui est technologiquement révolutionnaire, mais on est en train de changer comment on articule les discours humains autour de la vidéoconférence et tout ce qui vient autour de ça. Et ça fait toute la différence et ça revient au point dans lequel je parlais d'humaniser les technologies. Il y a beaucoup de technologies qui sont fantastiques, qui sont là dehors, mais il y a beaucoup de technologies qui ont des gros potentiels, mais qui sont pas encore, qui n'ont pas encore touché à l'humain. Puis je pense qu'il y a un travail immense à faire là-dessus.
Oui, et c'est justement le sujet de ma prochaine question, parce que j'aimerais ça parler du futur. Je voudrais surtout parler, en fait, de la pensée futuriste. Selon Steven Dupont, qui est un futuriste et relationniste, développer une pensée futuriste, c'est entre autres pouvoir imaginer notre futur dans 5 à 100 ans, avoir le courage de poser les questions que personne n'ose poser, ou encore anticiper la possibilité d'un futur négatif tout en plaidant pour du positif. Donc moi, Alfonso, je vais te demander maintenant de te mettre à la place d'un futuriste, d'essayer d'imaginer notre monde en 2030. Et que vois-tu en ce qui concerne nos interactions, nos façons de nous connecter et de communiquer?
C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on a le luxe et aujourd'hui, un peu, puis je pense que c'est quelque chose qui va s'en venir, de pouvoir connecter avec des gens un peu partout dans le monde, mais c'est très décousu. On peut parler, oui, on peut appeler quelqu'un au Japon, mais il n'y a pas de sens de vraie communauté en ligne. Je pense que beaucoup de ce qu'on fait, des activités qu'on fait au présentiel aujourd'hui sont autour de certaines communautés, mais il y a comme une masse critique pour créer cet espace où on trouve des gens vraiment qui nous rassemblent. Je pense que dans un futur, on va être capable de trouver ce type d'espace autour d'une communauté, dans un espace hybride qui mélange présentiel et le virtuel, d'une façon qui soit très connectée avec l'humain et dans laquelle on puisse vraiment rentrer dans une profondeur des interactions. Ça serait peut-être avec la réalité augmentée, justement, avec la réalité mixte, puis qui nous permettra vraiment d'aller dans la profondeur de ce qui nous passionne. Et je sais pas, je pense que vous, avec qui je parle en ce moment, puis les gens qui nous écoutent, on a tous touché à cette passion, cette partie de notre vie dans laquelle on aimerait ça, trouver des gens qui s'identifient avec ce type de... qui résonnent avec ce type de passion, ce type de désir. Peu importe que ce soit créative ou curiosité humaine ou... Il y a des gens dans la planète qui sont là-dessus, puis il y a une communauté quelque part qui pourrait se créer. Et des fois, c'est pas dans notre ville, surtout les gens qui, tu sais, à Montréal, on est chanceux d'avoir un peu n'importe quoi, mais il y a des grandes villes dans lesquelles c'est beaucoup plus homogène, puis il manque beaucoup de choix qu'on a ici, même si c'est des villes plus grandes. Fait que je pense que dans le futur, on sera capable de trouver ce type de communauté et toute la créativité qui vient d'être capable de se rassembler avec des gens qui résonnent sur le même passion.
Pour terminer, peux-tu nous parler de futurs projets personnel ou avec Atypic Lab?
Oui, certainement. Il y a beaucoup de projets dans mon radar, mais il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai envie de créer un espace physique, je l'imagine dans une forêt ou dans un beau bâtiment historique, que c'est comme une espèce d'aventure incarnée dans laquelle on est vraiment dans notre corps et dans laquelle il y a des installations interactives qui réagissent à où l'on est dans une histoire. Donc, c'est facile à raconter comme si c'était une histoire. On se rappelle tous quand, dans notre enfance, les livres dont vous êtes l'héros, où c'est selon le choix, on va à une page, une autre, puis l'histoire change. On peut faire facilement quelque chose comme ça, mais à la place d'aller dans une page, tu vas dans un endroit et les projections ou les installations interactives vont réagir à où tu en es dans l'histoire et pas juste à ta présence. Si tu reviens au même endroit plus tard, ça va être un autre personnage ou une autre partie de l'histoire qui va se déclencher. Mais ça, c'est juste la partie simple. On est rendu à un point dans lequel on peut créer des expériences qui sont personnalisées pour chacun des participants et qu'on est accompagné pas uniquement dans notre désir narratif, mais aussi dans une aventure qui nous sort un petit peu de notre zone de confort. Donc, je vois un espace dans lequel, puis en ce moment, je l'imagine comme si, mettons, cet axe de développement personnel, souvent dans les escape rooms, dans les jeux d'évasion, on va beaucoup dans le mental, dans les logiques, mais on peut parler aussi des qualités de présence, c'est qu'on pourrait développer avec des exercices un peu plus méditatifs qui peuvent être ingrénés dans la narrative. On peut parler aussi de capacité d'intimité, genre par exemple, il y a quelqu'un qui peut trouver terrifiant de faire contact visuel avec quelqu'un pour 20 secondes. Puis il y a quelqu'un qui peut être très à l'aise avec ça, mais essayer de saisir dans ces différents axes de développement personnel où est la personne, et être capable de proposer des choix qui permettent de faire un petit pas, un moyen pas ou un grand pas en avant selon la disponibilité de la personne dans le moment présent, pas demain, pas dans une heure, genre comme là, tu te sens disponible pour faire quel risque à ce niveau-là ou quel type de... C'est peut-être zéro, j'ai peut-être pas envie de... J'ai juste envie d'une expérience fun. Mais ouais, vraiment permettre les gens de décider où est-ce qu'ils peuvent aller et qu'ils sortent de là, pas juste avec une expérience qui était entertaining, comme divertissante, mais avec quelque chose qui les a fait grandir comme personne, selon leur disponibilité.
Et ça va être vraiment intéressant de suivre Atypic Lab de très près dans les prochaines années, parce que je trouve que tu viens avec une vision vraiment particulière des technologies. Et puis, c'est vraiment très généreux de ta part de nous partager cela. Donc, pour terminer, je vais vraiment te remercier. Merci encore de m'avoir accordé ton temps. C'est très apprécié. Au plaisir de se reparler bientôt, peut-être de technologie ou autre chose. On verra bien, mais merci Alfonso.
Merci à toi Laurent, je suis honoré d'être invité à faire partie de cette discussion et merci à tous les gens qui se sont connectés, qui nous écoutent pour avoir passé un petit moment avec nous.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine.
Merci d'avoir écouté Futuristique 3.0. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires et surtout à le repartager sur vos réseaux sociaux. Restez à l'affût du prochain épisode sur toutes les plateformes d'écoute et suivez-moi, Lauren Cesso, sur LinkedIn et Twitter. À bientôt !